Bienvenue à ce jour spécial. Si ça ne l'est pas pour vous, en tout cas, ça l'est pour moi, parce que d'habitude, je mets à peu près 80 heures pour une prédication, sinon plus. Et là, j'ai eu 5 minutes. Je vais vous montrer mes notes. J'avais une enveloppe qui traînait dans ma Bible et j'ai marqué mes notes sur la Bible. Mais notre frère Laval, pour des raisons personnelles, n'a pas pu être là. Donc, on a choisi, pour des raisons pratiques, de ne pas annuler. Peut-être qu'il y en avait qui n'étaient pas là ce matin, qui n'auraient pas eu le message, qui seraient venus pour rien. Et puis, on a décidé de le faire quand même. Et puis, quasiment immédiatement, évidemment, on ne prend pas n'importe quel sujet. Il faut prendre un texte qu'on connaît. Alors, non, je ne prendrai pas Sophonie pour ce soir. Je ne connais pas Sophonie assez bien pour ça. Mais je vais vous inviter à tourner dans Jean chapitre 3. C'est un texte, en fait, qu'on connaît tous bien. Et j'aimerais qu'on regarde quelques passages ensemble et peut-être apprendre un petit peu plus c'était qui cet homme et c'est quoi la nouvelle naissance. Et juste avant, on va faire un mot de prière. Oui, Seigneur Dieu, on veut se remettre à ton esprit pour au moins deux choses. Premièrement, pour que tu travailles notre cœur, et le mien aussi, premièrement, et aussi pour s'attendre à ce que tu nous parles à travers ta parole. Tu nous dis que c'est ton épée. Transperce-nous, change nos motivations, change nos cœurs, transforme-nous encore et encore, Seigneur. On veut te donner le libre accès à nos vies, Seigneur. Parle-nous. Amen. Alors, lisons. Chapitre 3, verset 1. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Nicodème reprit la parole, « Comment cela peut-il se faire? » Et Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand que je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » C'est un beau texte. George Whitefield, qui est un grand prédicateur évangéliste, chaque époque, en fait, il y a toujours un sujet, en quelque part, qui revient. Martin Luther, par exemple, c'était la justification. Et là, il faisait face à l'Église catholique, et lui, il est sorti de cette Église-là, et comment qu'on est justifié? Là, on a beaucoup décrit à cette époque sur le thème de la justification. Calvin, c'était d'autres choses. Et George Whitefield, lui, c'était la régénération, la nouvelle naissance. Et c'est probablement la personne qui a prêché le plus sur Jean 3,16. Près de 3000 prédications sur Jean 3,16, partout où il allait. Quasiment tous les jours, il parlait, puis il faut que vous naissiez de nouveau. Puis il changeait d'un village, puis il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et puis là, on l'interrogeait, puis là, à un moment donné, il y a un homme qui est allé le voir, puis il dit, comment ça, à toutes les fois que je te rencontre en quatre pattes, tu es tout le temps en train de parler qu'il faut naître de nouveau. Et pourquoi? Ben, il dit, c'est parce que tu as besoin de naître de nouveau. On a besoin de naître de nouveau. Et puis, là, bon, évidemment, à l'époque de Whitfield, il y avait toutes sortes de doctrines qui véhiculaient dans l'Église. Et lui, il avait besoin de mettre l'emphase sur cette régénération et le travail de l'Esprit qui change le croyant. Et ici, on a Nicodème. Premier exposé pratiquement en fait, Jean est le seul évangéliste qu'on a les 6 premiers mois de son ministère public. Et c'est un des premiers discours que Jésus fait qu'on voit dans Jean. Et on voit un rabbin qui vient vers Jésus de nuit. Et pourquoi? Plusieurs théories probablement qui avait pas pris position encore pour Jésus. Il veut l'interroger. Les tensions commencent à monter. On vient de nuit. Et il y en a qui vont spiritualiser aussi le fait qu'il est venu de nuit. Et là, ils vont dire dans Jean chapitre 1 que les ténèbres régnaient et puis que là, lui, il est venu dans les ténèbres parce que ça symbolise. Bon, allons pas trop loin là-dedans. Il est venu de nuit. Y avait-tu peur? Y avait-tu pas peur? Probablement. C'est un rabbin. En fait, même plus loin que ça, on va lire que c'est un chef des Juifs. Et on va regarder aussi c'est quoi un chef des Juifs. Et cet homme, Nicodème, vient et pose une question. Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En fait, ce n'est même pas une question, c'est une affirmation. Et j'aimerais vous suggérer que cette affirmation trouve son sens. Qui a entendu parler des écrits de Flavius Joseph? OK, oui, quelques-uns. Flavius Joseph, c'est un historien juif qui, lui, a parlé de l'histoire des Juifs dans un de ses écrits. Et puis, il y a un certain point où il mentionne Jésus. Et puis là, il dit que c'est le Messie qui est venu, qui est mort, crucifié, puis qui est ressuscité. Et c'est un texte qui est beaucoup controversé, mais en même temps, il y a quelques éléments dans ce texte, et c'est une théorie que j'ai mis. À un moment donné, moi, je devrais écrire un livre là-dessus, mais il y a 3 éléments dans le passage de Flavius Joseph qu'on voit exactement avec Nicodème ici. Et j'aimerais simplement, je ne vais pas parler de si Flavius Joseph, c'est vrai ou pas le texte, mais ce qui est véhiculé chez les Juifs à cette époque, transmis même par les historiens juifs, c'est au moins 3 choses. 1, nous savons que tu es docteur venu de la part de Dieu. 2, qui fait des miracles. Et 3, que Dieu est avec lui. Et c'est sensiblement, là j'aimerais vous le montrer, le texte de Flavius Joseph, je ne l'ai pas, mais ce qui était connu à cette époque de Jésus, c'est exactement ça. Écoute, c'est spécial là, ce que tu fais. Là. Les miracles comme que tu as fait là, à Cana, là, puis ça, c'est pas, ça ne s'est jamais vu encore. Là. Et puis chasser des démons, et puis là... Et ça commence à se construire. Et là, les Juifs là, commencent à sentir que le pouvoir commence à avoir des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on reconnaît? Que celui qui fait des choses comme ça, un, c'est des miracles. Donc, c'est Dieu qui agit. Et Dieu est avec lui. Et à ce moment, on reconnaît aussi que c'est un enseignant qui nous enseigne. Et là, il s'en vient. Et Jésus lui dit... Immédiatement, il ne semble même pas laisser le temps de compléter sa phrase. En tout cas, le texte ne le dit pas. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand je suis devenu chrétien, je me posais plusieurs questions. Je suis devenu chrétien à 18 ans. Et puis, j'avais été élevé d'une famille chrétienne, mais à ma conversion, je savais que j'avais besoin de lire la Bible. Alors, ce que j'ai fait le lendemain de ma conversion, on s'était couché à 3 heures du matin, j'étais allé à la librairie chrétienne, puis je me suis pris un commentaire biblique. Et puis, en lisant le commentaire, bien, je me suis rendu compte qu'il manque des choses là-dedans. Et puis là, bien, j'ai acheté d'autres commentaires, je me suis mis à comparer les commentaires. Et puis là, à un moment donné, j'avais besoin de défis un peu. Et puis, j'ai demandé à un de mes amis qui était chrétien depuis plus longtemps que moi, il dit, je veux un défi, tu sais, un défi sur lequel je vais... me casser la tête. Tu sais, j'ai le goût de plonger dans les Écritures et puis, ah, mais il m'a dit, c'est simple, mais je vais te donner un défi. Et puis là, il a lu ces 3 versets. En vérité, je te dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et il me pose la question, « C'est quoi naître d'eau? » Bien, c'est simple, c'est la physique, physique, esprit. Il est né physiquement, il faut qu'il naisse en esprit. Il cherche un petit peu. Il dit, prends le temps de chercher. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On cherche des interprétations. Dans la semaine qui a suivi, j'ai trouvé 11 interprétations environ de comme l'eau représente quoi. Et pendant un an et demi, je me suis cassé la tête avec ça et j'ai ri parce que pour moi, ça semblait si simple au début. Et finalement, c'est devenu relativement complexe vite et on peut résoudre facilement. On peut résoudre le problème simplement en lisant le texte. Des exemples d'interprétation, par exemple, que l'eau représente la parole de Dieu. Éphésiens, entre autres, dit qu'on est régénéré par sa parole. Et donc, l'eau ici, et MacArthur, dans un de ses écrits, j'ai trouvé que lui, il l'avait interprété comme ça. Mais il ne l'interprète pas toujours comme ça. En tout cas, il faudrait que je pose la question un jour. Mais entre autres, c'est une des positions pour les catholiques. C'est le baptême. Tu es baptisé, tu nais d'esprit, l'esprit va venir, puis ça vient après, puis c'est parti, tu es chrétien. Ah, ça veut dire c'est physique. C'est une naissance physique. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est le Saint-Esprit, parce qu'il y a d'autres passages qui vont associer. Mais là, ça semble dire qu'il y aurait une répétition. Il faut que tu naisses d'esprit et d'esprit. Et là, on te twist tout ça. J'ai même vu une interprétation qui disait que l'eau représente l'eau quand que le soldat, il a percé les côtes, il a vu l'eau et le sang. Mais non, mais il y a des versets qui parlent qu'on est régénéré avec l'eau et le sang. Et là, il y a une panoplie d'interprétations. Et là, j'ai commencé à trouver ça vraiment intéressant. Parce que j'aime les défis. Mais je veux vous relever le défi aujourd'hui de regarder ça. Nicodème comprend quoi dans ça? Mais il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? » Mais pourquoi qu'il pense ça? Pourquoi qu'il pense que c'est physique? Si on considère, par exemple, Arnold Fanktenbaum, qui est un juif, Arnold Fanktenbaum va dire, « Ah, l'idée de nouvelle naissance est commune chez les juifs. » Chez les juifs, par exemple, il y en a 6. Nicodème en remplit 5 dans les 6. Par cœur, si je me rappelle bien, c'est tu nais quand tu deviens à ta bar mitzvah adulte. Quand tu te maries, on va dire que c'est une nouvelle naissance, donc c'est un nouveau départ dans la vie. Quand tu es rabbin, quand que tu deviens chef rabbinique, quand tu es sacré roi, et une qui semble être impossible, c'est renaître physiquement. Et Nicodème là-dedans en remplit, c'est pas 5, c'est au moins 4 là-dedans. Il s'est fait sa bar mitzvah, c'est sûr. Il est marié, c'est sûr. Parce que pour avoir à être rabbin, il fallait être marié. Et pour avoir une école rabbinique, il fallait être marié. Et pourquoi qu'on sait que Nicodème avait une école rabbinique, c'est que plus tard, c'est que Jésus lui dit au verset 10, « Tu es le docteur d'Israël. » Pourquoi? Parce que tu es celui qui enseigne ceux qui vont enseigner. Et pour Nicodème, c'était impossible qu'il soit roi. Alors, il en reste juste une possibilité. Comment je peux-tu naître encore une fois puis rentrer dans le sein de ma mère? Ça, c'est ce que Nicodème pense. Mais Jésus veut dire quoi dans tout ça? Regardons le verset 3 et 5. Ils sont parallèles. Les mêmes idées sont présentes. Quelques variantes près. Et je vous suggère d'éliminer ce qui est pareil et de conserver seulement ce qui est différent dans ça. Par exemple, Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit. » Verset 5, Jésus répondit, « en vérité, je te l'ai dit. » On élimine ça. Il dit, « Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. » Elle a la différence. Il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, on élimine ça. Alors, l'équivalent de naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Et qu'est-ce que naître d'esprit? Regardez, ça semble quasiment comme un reproche. Peux-tu rentrer dans le sein de ma mère? Non. Nicodème, je t'ai dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit Tu peux pas revenir dans le sein de... Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, voici l'explication. Jésus va rendre clair. C'est quoi naître de nouveau? Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de quiconque est né de l'esprit. Mais faut-tu naître d'eau et d'esprit? Nicodème, tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Regarde le vent. Et le vent souffle où il veut. Hein? Ce n'est pas une belle explication. Qu'est-ce que tu dis là? J'imagine Nicodème avec le point d'interrogation dans la face. En tout cas, moi, je l'aurais, c'est sûr. Et Nicodème reprit la parole et dit, « Comment ça peut se faire? » Et Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ça? » Qu'est-ce que Nicodème aurait dû savoir à ce moment? Les Écritures, « Tu es le docteur d'Israël! » Mais quelle Écriture? C'est ça la question. Naître de nouveau? Dans l'Ancien Testament, aucun. Naître d'eau et d'esprit, ah, là par exemple, il y en a quelques-uns. Un en particulier, Ézéchiel chapitre 36. Retournons dans Ézéchiel chapitre 36. Et on va lire à partir du verset 24. C'est un texte qui concerne la nouvelle alliance. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Première chose que je veux souligner, la souveraineté de Dieu dans le plan du salut, dans cette nouvelle naissance. La souveraineté de Dieu dans ce que c'est lui qui produit cette naissance. Tu vois, Nicodème, le vent souffle où il veut. OK, ça c'est l'illustration. Il fait du bruit, tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où ce qui vient. Il en est de même de l'esprit. L'esprit fait ce qu'il veut, il va où il va, il est souverain sur ces choses. Et regardez le langage des versets. « Je vous retirerai, je vous rassemblerai, je ramènerai, je ferai sur vous, je vous purifierai, je vous donnerai. » C'est Dieu qui parle. « Je mettrai mon esprit. » C'est Dieu qui parle. Dieu qui est souverain dans cette nouvelle naissance. Et même si on n'allait pas dans Ézéchiel chapitre 36, on peut juste tourner deux chapitres avant en 1-13 dans Jean, 12 et 13. La lumière au verset 11 est venue chez les siens, ils n'en l'ont point reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu. Elle a fait le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du champ, du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui produit la nouvelle naissance? C'est Dieu. Il semble avoir deux notions qui sont centrales dans cette nouvelle alliance et qui est communiquée et qui est en arrière-plan de ce que Jésus veut nous communiquer. Si on prend par exemple un autre texte dans Jérémie 31, ce qui nous dit que il va arriver un temps où ce que il n'y aura plus de prophétie, puis tout ça, là, dans 31. C'est ça. Et suivant. Voici les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et là, plus tard, verset 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain ni son frère. Et là, il va avoir la connaissance et on va tous connaître, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pourquoi? La Nouvelle Alliance contient au moins deux notions que Jésus véhicule dans un de ses premiers discours dans Jean chapitre 3, et ces notions sont la purification, l'eau. Il va y avoir cette eau qui va nous purifier dans la Nouvelle Alliance. Et la deuxième notion, c'est la régénération par son esprit. Ça nous rappelle quoi? Quand on regarde la Nouvelle Alliance dans Jérémie 31, on commence souvent à partir du verset 31. Mais les versets qui le précèdent sont importants. Verset 29-30, par exemple. « En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacées. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mangera des raisins verts aura des dents agacées. » Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que l'ancienne alliance était tribale. C'était des tribus dans lesquelles il y avait un médiateur, le sacrificateur. Mais il va venir un temps où ce que le père qui mange des raisins verts et les dents des fils qui sont agacés, donc le père qui représente la famille, qui représente cette tribu, il va venir un temps où ce que ça va être aboli et que chacun va payer pour sa propre faute. Et si on regarde ce qui suit après, on n'enseignera plus son frère, il va avoir la connaissance, et du plus petit jusqu'au plus grand, ils vont connaître l'Éternel. Qu'est-ce qui est aboli dans le Nouveau Testament? Quelle est la continuité ou la discontinuité, peu importe comment vous appelez ça? C'est qu'il n'y a pas un représentant qui va payer pour vos fautes. Tous, on va être redevables, premièrement, mais aussi vient la connaissance de l'Éternel. Et tous pourront avoir cette connaissance. Nicodème, ne comprends-tu pas que ce n'est pas parce que tu es juif que tu es sauvé? Mais tu as besoin que Dieu fasse ce travail en toi. Tu n'es pas le représentant de la tribu et ça ne sera plus le souverain sacrificateur qui est dans le temple parce que ces choses vont passer et ce n'est pas parce que tu es né juif que tu vas nécessairement avoir le salut. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et comment? En vérité, je te l'ai dit, verset 11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il me semble que la croyance ou la foi ou de mettre notre confiance en Jésus est au centre du discours de Jésus. Et là, c'est rendu un monologue. Jésus qui enseigne le docteur d'Israël, celui qui a une école rabbinique. Toi, tu enseignes les rabbins. Là, ben regarde, moi, je vais t'enseigner sur les Écritures. Et ce qu'il faut que tu connaisses, finalement, c'est que c'est par la foi. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Tu vois, Nicodème, c'est par la foi. Et la foi n'annule jamais la souveraineté de Dieu. C'est Éphésiens 2:8. On connaît tout par cœur, sauf quand on est en avant. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Qu'est-ce qui ne vient pas de nous? La foi. La foi, c'est quoi? C'est un don de Dieu. Et c'est Dieu qui agit et qui donne le moyen. Voyez, Jésus, à trois reprises dans notre passage, il utilise le même genre d'argument. Premièrement, théologique, et ensuite de ça, il donne l'illustration. Et ici, l'argument théologique, c'est, tu vois, regarde dans l'Ancien Testament, il y a Moïse qui a élevé le serpent, et ceux qui étaient mordus par le serpent, ils regardaient par la foi, et il y avait la vie. De même, et là, Jésus annonce directement sa mort, très au début de son ministère, et tu vois, il en est de même du Fils de l'homme, afin qu'on ait la vie éternelle. L'explication théologique, c'est le verset 14 et 15. Et verset 16, c'est l'explication « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. » Ça l'explique, la théologie. C'est par la foi qu'on s'approche de Jésus, qu'on s'approche de Dieu. Et ça, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui va travailler en nous. Et pourquoi prêcher la souveraineté de Dieu dans le salut? Si la foi, après tout, c'est un don de Dieu, pourquoi parler de ça? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ça vient de la parole de Dieu. Et je te prêche ces choses parce que l'Esprit de Dieu va appliquer ça en toi et va régénérer. En passant, il y a un texte en dehors du Nouveau Testament et j'ai hâte d'arriver au ciel pour voir si Nicodème va être présent. Mais il y a un texte en dehors de la Bible qui parle que Nicodème a pris position pour Jésus et il a été rejeté du Sanhédrin. La foi en Jésus a divisé tout Israël. Mais c'est quoi ce monde? Il est mort pour le monde. Il est mort pour les élus. Il est mort pour qui? N'as-tu qu'il y a un peu de débat théologique? Es-tu mort pour les élus ou il est mort pour le monde? Il est mort pour le monde? Pas pour les élus? Ou juste pour les élus, pas pour le monde? Et si on en croit certains prédicateurs qui vont nous dire que ici, j'ai vu tout un long exposé qui a rempli deux tableaux doubles, là, avec toute sa liste d'arguments, là, puis à la fin, il dit finalement, le mot ici, ça désigne les élus. Mais je m'excuse, là, mais lui n'est pas là. Et là, tous ceux qui pensent qu'il est mort pour le monde vont amener un autre texte de Jean, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et lui-même, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le monde entier ou les élus, ou les deux ont raison. Jeff, c'est quoi la position d'une BBI? Non, on ne veut pas la position d'une BBI. On veut la position de la Bible. Quand Jean utilise le mot « monde », à 95% des fois qu'il utilise le mot « monde », il n'est pas en train de dire là, « Ah, monde, tu es tellement beau, merveilleux, aimable. Je dois me donner pour toi. Écoute, tu vois Dieu, moi j'ai une idée. Imaginez Abraham. Écoute Abraham, parle à Dieu. Écoute Dieu, j'ai une idée. Je pourrais être le père d'une nation nombreuse. Et toi, ben, tu pourrais finalement, écoute, faire une alliance avec moi. Et Dieu, je pense à ça, ils vont être sauvés par la foi, mais pendant un temps, tu prendras seulement le peuple d'Israël et un jour, tu tourneras vers les nations et par la foi, on croira. Qu'est-ce que tu en penses, Dieu? C'est ça qu'il dit? À ce que je sache, quand je lis l'Ancien Testament, Abraham, c'est un idolâtre. Ou disons, c'est, dans sa culture, c'était ça qu'il faisait. À Ur, il sacrifiait des enfants sur des autels. Et pour Abraham, il a vu ces choses-là. Et je ne suis pas sûr qu'il a eu cette idée-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que le texte nous dit. Et quand que Jean utilise le mot « monde », il est en train de dire que le monde est tellement mauvais. Il est tellement sans Dieu. Il ne peut même pas arriver à ta connaissance. La lumière est venue, ils ne l'ont pas écouté, ils l'ont rejeté. Qu'il ne pouvait même pas arriver à la connaissance de Dieu. Et ce qui rend le sacrifice de Jésus tellement merveilleux, en fin de compte, c'est justement parce qu'il est tellement mauvais, vous êtes tellement mauvais, que c'est ce qui rend le sacrifice de Jésus merveilleux. Et c'est pas parce qu'on est bon, qu'on est fin, puis qu'il aime tout le monde, puis que tu sais, c'est. Non, quand la Bible parle de l'amour de Dieu, elle l'utilise dans plusieurs sens différents. Quand il dit que Dieu aime Jésus comme son fils, dans qui il prend toute son affection, il est pas en train de dire que ah moi je vais me donner pour Jésus. Non, il est en train de prendre plaisir en Jésus. C'est un amour qui est trinitaire, c'est un amour qui est unique. Et quand il dit qu'il fait mouiller parce qu'il aime le monde, il fait mouiller la pluie sur le bon et le méchant, il n'est pas en train de dire qu'il aime le monde, les méchants, de la même façon qu'il aime Jésus. Mais ici, dans Jean chapitre 3, verset 16, ce qui rend le sacrifice de Jésus, c'est justement qu'on est tellement méchant, parce que dans les chapitres qui précèdent, c'est qu'on le rejette. Et le thème central de l'évangile de Jean, c'est quoi? Le rejet de Jésus. Qu'il l'a annoncé. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui l'a descendu. Et comme Moïse éleva le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est pas parce que le monde est bon, là. Et c'est justement parce qu'on est méchant. Et la régénération est tellement importante. Oui, il faut être purifié. Mais Nicodème, tu ne peux pas si Dieu ne fait pas le travail en toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sur quelle base tu veux arriver au ciel, Nicodème? Parce que tu es né juif? Parce que tu as fait la loi, tu as pratiqué la loi, parce que tu as fait ta bar mitzvah, parce que tu as une école rabbinique. Nicodème, tu ne comprends même pas les textes. Jean-Luc, sur quelle base tu veux te présenter devant Dieu pour dire que tu es tellement bon, merveilleux, puis rempli de... On ne peut pas. Et là, on aime le verset. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé en lui. Et là, on met tellement d'emphase sur l'amour de Dieu. Et puis moi, j'aime parler de l'amour de Dieu. Mais n'oublions pas le verset 36 dans le même chapitre, celui qui ne croit pas au Fils, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans une réunion avec The Gospel Coalition, la coalition pour l'Évangile, il y avait plein de prédicateurs qui étaient là, et puis des grands prédicateurs qu'on écoute sur Internet, qu'on aime tous, qui publient tous 50 livres, puis qui ont tous écrit 10 000 articles. Et puis, à un moment donné, les questions, ça commence, et puis là, il y a des troubles dans l'Église. Et puis là, il y a le risque, dans les grosses Églises, de diluer l'Évangile. Et puis là, il y a toutes tes discussions théologiques, puis ça a toutes deux, trois doctorats, puis ça parle, puis tout ça. Et puis là, il y a un petit bonhomme de 5 pieds 7 environ, dans le coin, qui s'appelle John Piper. Et puis, à un moment donné, à la question, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on enraye ça, là, de diluer l'Évangile? Et puis là, dans toutes ces discussions, à un moment donné, la voix s'est fait entendre. Prêcher l'enfer. OK, que nouveau cette exhortation? Et si vous connaissez Piper, on le connaît pour ses exposés sur la gloire de Dieu, sur l'amour de Dieu et sur tout ça. Et puis lui qui est dans le coin qui dit prêcher l'enfer. Il dit, il y a deux choses qui vont se produire. La première, c'est ceux qui n'ont pas d'affaires là vont partir. La deuxième, c'est que vous allez garder tellement la division avec tout ce qui est libéral et qui veut diminuer l'Évangile que vous allez être reconnus pour être ceux qui proclament l'Évangile comme qu'elle se doit. Et l'amour de Dieu n'enlève jamais la colère de Dieu et la sainteté de Dieu sur le péché. Et c'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, pourquoi? Ben oui, il est pécheur, mais le péché est toujours et premièrement une offense contre Dieu. Et il fallait, pour qu'on soit purifié, Nicodème, que le Fils de l'homme, que le ciel se vide, puis qu'il vienne, puis qu'il meure pour tes péchés, parce que tu ne peux pas. Tu as une dette contre Dieu. Tu pèches, tu meurs. Genèse chapitre 3. Mais une fois que tu es mort, qu'est-ce que tu peux donner de plus? Rien. Et la nouvelle alliance, c'est je vais enlever ce cœur de pierre, un cœur qui est mort, et je vais mettre en lui ce cœur de chair. Je vais mettre quoi? C'est quoi un cœur de chair? C'est la vie. Je vais placer ma vie en lui. Pourquoi parler de la régénération? Pour moi, aujourd'hui, Je voulais parler de l'Évangile. Et l'Évangile garde la souveraineté de Dieu au centre et garde notre péché comme extrêmement grave et élève de façon incroyable le sacrifice de Jésus. Pourquoi? Parce que le péché, c'est infiniment horrible, infiniment grave, et la grâce de Dieu est infiniment précieuse aussi. Et en prêchant l'enfer, en prêchant la colère de Dieu, en élevant le sacrifice de Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On garde cette distinction et on amène, et il faut amener, et il veut créer un désir pour l'Évangile. Parce que notre voisin d'à côté, là, si on l'aime, là, ben c'est ça, il périt pour l'éternité. Puis ça me challenge, premièrement, parce que des fois, je me dis, je devrais en faire plus, puis je devrais aller plus vers eux autres, puis on devrait. Et une des façons d'arriver à faire ça, à mon avis, c'est de regarder, de plonger les regards dans cet Évangile. Et la régénération qui est présente ici, une fois qu'on est régénéré, Seigneur donne son esprit, qu'est-ce que ça produit? Chapitre 1. La régénération produit un accès à Dieu. On l'a lu tantôt. On a le pouvoir d'être des fils de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 22. Chapitre 10, verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé de nos purs. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La régénération, le travail de Dieu dans le croyant, nous donne accès à Dieu, premièrement. Et deuxièmement, c'est notre espérance. C'est notre espérance. Qu'est-ce que la régénération fait? Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Frères et sœurs, il y a des personnes que je connais un petit peu moins, j'imagine actuellement dans la salle que tout le monde est chrétien. Et souvent, on utilise Jean chapitre 3, verset 16, et on veut l'appliquer aux non-chrétiens. Mais Jean écrit à qui? Il écrit à des chrétiens. Dans une église qui vivait la persécution et qui commençait à avoir la montée d'un groupe qui disait « Ah oui, pour avoir la vie éternelle, ben oui, oui, il faut avoir la foi en Jésus, mais en même temps, il faut que nous, les gnostiques qu'on appelle, on vous donne une révélation. » Et Jean écrit à ses chrétiens, il veut les rassurer que celui qui croit en Jésus, Jean 20, 31, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Et je vous écris ces choses afin que vous le sachiez. Savoir la certitude que nous avons notre foi dans la bonne personne nous donne l'assurance, accès à Dieu et l'espérance. 1 Pierre 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Avez-vous vu le nombre de textes? Et là, il y en a d'autres aussi. Le nombre de textes qui joignent la régénération et l'espérance. Il faut qu'on le sache parce que c'est notre espérance qui est vivante en nous. C'est Christ en nous, c'est Dieu qui fait ce travail en nous. Mes frères et sœurs, si on continue à lire Pierre, qui conserve la régénération, il va parler de la sainteté. Puis il va parler de la colère de Dieu. Puis il va dire l'espérance qu'on a, oui, elle est précieuse, mais seulement Jésus-Christ. Mais prenez garde à ces faux docteurs qui veulent diminuer la grâce de Dieu pour dire finalement qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Dieu est saint. Et c'est justement à cause de ça qu'il pouvait mourir sur cette croix pour nous. Et je veux vous encourager. J'espère que je vous ai amené d'autres éléments dans Jean chapitre 3 pour pouvoir parfaire vos études, mais en même temps de vous émerveiller de l'Évangile de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ, afin quoi qu'on ait une espérance vivante, afin qu'on regarde nos voisins puis qu'on se dise que l'enfer, c'est la chose à éviter. On peut perdre notre job, là, ça c'est une chose, là, mais il y a du monde autour. Et commençons par nous-mêmes, par s'émerveiller de cet Évangile. On va prier. Et Seigneur Dieu, merci pour ton Évangile. Dans ces temps difficiles, peut-être pour chacun d'entre nous, dans des temps de réflexion, on veut te demander de nous passionner par l'Évangile, de nous passionner pour ce que tu as fait pour nous. Qu'on puisse trouver notre joie en toi. Qu'on ne pense pas que ce qu'on a fait nous mérite quelque chose, Seigneur, mais ton sacrifice. Élève en nous un désir aigu de sainteté. Et donne-nous de trouver notre joie dans la sainteté. Parce qu'en le faisant, Seigneur, on veut s'approcher de toi avec une conscience pure, avec une espérance vivante, une certitude que tu es fidèle. Amen.